Le Spacecast, présenté par Giroir Équipement. Une équipe passionnée en machines de levage, de manutention et d'élévation de personnes. Concessionnaire spécialisé de Manitou, Giroir Équipement vous offre un service inégalé dans votre région. Giroir.qc.ca.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. Je m'appelle Jean-Francis Blais, face à moi, Louis Gauvin, Violent Lou.
Yes, sir.
Yes, et on est très, très bien accompagnés en studio avec nous autres, le chum Yann Monette. Salut, Yann.
Yes, ça va, boys?
Ça va très bien toi-même?
Très, très bien.
Hey, je suis content de te voir. Je pense que c'est la première fois qu'on se rend... Non, c'est pas vrai.
Non, je pense que c'est la deuxième.
Deuxième, ouais, c'est vrai. T'étais venu en studio plus tôt dans la saison. Qu'est-ce qui t'amène à Québec?
Ben, en fait, on est à Québec pour le Salon de la Tulipe. Il y a surtout la famille La Tulipe. Ils font quelque chose de hot cette année. Puis ouais. On travaille avec eux autres beaucoup, en partenariat avec Beretta, la Fermonette... Aussi, c'est un bon commanditaire aussi à nous autres, le Fermonette. Ils se débrouillent pas pire avec
nous. C'est du bon monde. Ouais.
Non, mais on est là, en fait. On est là jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche. Puis ils font quelque chose. Écoute, ils ont fait un job de fou. Ils sont allés chercher comme une affaire comme jusqu'à 150 000 $ en prix pour cet événement-là. Jeudi soir à 7 h, les 100 premières personnes qui viennent nous voir, on a un cadeau de 200 $ pour eux autres. Qui achètent rien, qui reviennent, qui viennent nous voir, puis ça, t'sais. Ils ont travaillé fort. Ah, ils ont travaillé vraiment, vraiment, vraiment fort.
C'est à quel endroit, hein?
C'est chez La Tulipe, à Québec.
Directement,
oui. Au fond du magasin, on s'enligne directement dans la chasse, puis écoute, t'as la Fermonette qui est là, t'as une compagnie de couteaux, t'as Setka qui est là avec leurs nouveautés, y a des représentants qui est là, ils ont des kiosques dans la pêche, dans la chasse, dans les vêtements, dans tout. Ça va être un gros party.
Ah, c'est cool. Tu me disais, la famille La Tulipe, c'est-tu encore détenu par une famille ou ils ont vendu ça?
Pis... Non, c'est encore M. La Tulipe qui a ça. Si je ne me trompe pas, c'est Louis son nom.
Okay.
Puis il y a une équipe de fous. Écoute, si je me trompe pas, ça existe depuis 1940.
Ah, c'est hot, ça.
C'est vrai, puis c'est québécois. Je trouve ça hot au bout.
De Québec, en plus, hein, sauf erreur.
Oui, exactement. Puis là, ils sont rendus avec une succursale à Lévis, une succursale à Trois-Rivières, puis ils ont la Maison-Mère qui est à Québec. Puis oui, c'est encore des La Tulipe qui ont ça.
Nice. Et toi, personnellement, es-tu là à des moments précis, tu sais, si les auditeurs veulent aller te jaser?
En fait, le moment hot, le hot spot, je vais dire ça, c'est jeudi de 5h à 7h le soir. Okay. Fait que c'est un 5 à 7.
5 à 7.
Vraiment, d'après moi, ça va étirer un petit peu. Là.
Comme tous les 5 à 7.
Ils font des dégustations de bière. Il va y avoir un paquet de... C'est un gros party qu'on fait.
OK.
Ouais.
Hey, t'es venu avec de la visite, disons-le de même. De la visite quand même assez lourde. Parle-nous de cette arme que t'as emmenée qui est digne de Chris Kyle. Carrément.
Ah, oui. Ben, en fait, l'arme que j'ai emportée, c'est une TRG M10 de Sako. C'est un arme en couleur tan, parce que c'est la couleur comme sable un peu.
Mm-hmm.
C'est un arme qui fait partie du corps militaire canadien, australien, finlandais et autres aussi. Puis c'est un gun de fou. C'est un gun style vraiment de sniper, t'sais, on s'entend. Mais t'sais, on dit sniper, c'est une carabine en fait. C'est une carabine comme les autres. C'est juste qu'elle montait vraiment à l'allure un petit peu tactical. Puis canon interchangeable, toutes ces affaires-là. Puis la technologie qu'ils ont faite en dehors de ça, ça fait que c'est la Ferrari des armes.
Pis ça, un gun de même, c'est-tu parce qu'il est tan puis qu'il est pas noir, qu'il est pas dans le ban du gouvernement?
Ouais, on va dire ça de même. Ouais, ben en fait, il y a rien à comprendre. t'sais, pour vrai, t'sais, on en parlait tantôt justement avec DH. Il n'y a aucune différence entre ça... Puis la bonne vieille 210 de mon grand-père qui est dans l'armoire. C'est okay. Juste la couleur, la forme, les trous qu'il y a dedans qui fait que l'ergonomie du gun, ça change rien. C'est juste, tu sais, l'exemple parfait que je prends, c'est que tu peux avoir une Ferrari avec un moteur de Civic, puis tu peux avoir une Civic avec un moteur de Ferrari.
Mais il interdirait, mettons, la Ferrari parce qu'elle look comme une Ferrari.
C'est ça, mais parce qu'elle a un moteur, la Civic a de l'air boboche, mais elle a un moteur de Ferrari, là, c'est correct.
Ah,
c'est
ouais.
C'est la meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est ça.
Ah, c'est particulier. Mais ça, là, c'est légal, mais extrêmement coûteux.
Ah oui, ben tu sais, ça s'adresse vraiment à un autre type, mettons, même pas de chasseur, je te dirais. Ben, tu sais, oui, il y a des gars qui peuvent chasser avec parce qu'on l'a en calibre 338. Tu peux l'avoir en 308 par 300 Win Mag parce qu'en fait, les canons sont interchangeables. Fait que on va se pratiquer beaucoup, 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 mettons, en 308. Parce que les balles, ça coûte moins cher. T'sais, en 338, je pense que c'est des alentours de 15$ la balle quasiment.
Oh, quand fait même, ça peut monter vite.
Ah oui, 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 oui. T'sais, ça peut monter très, très vite. Fait que, ah non, c'est... Il y a de tout pour les de tous âges, de tout prix, puis de tout.
Un éléphant contre ça, qui gagne?
Je pourrais pas te... Ah, d'après moi, une 338, j'aurais pas de difficulté. Je connais pas exactement la chasse à l'éléphant, on s'entend, mais je sais que chaque animal a un point faible pour faire un tir efficace, clean. Fait que j'aurais pas de misère avec une 338.
Mais tantôt, tu nous disais que tu peux utiliser cette arme-là contre un coyote. Mais qu'est-ce qui reste d'un coyote à un coup qui a mangé une balle de ça? Il reste de quoi?
Pas grand-chose. Ouais, c'est... parce qu'en fait, t'sais, souvent, ce qu'on va faire, c'est que les tirs qu'on va faire, c'est des tirs mortels. Que souvent, quand on va faire du coyote, ben on veut récupérer la peau. Fait que ce qu'on va faire, c'est que les tirs mortels, souvent, c'est des tirs, mettons, à la tête, qui va faire que ça va être clean. Ça va pas mal gagner la peau parce que la peau sur la tête, on l'utilise pas.
Okay.
Fait que.
Il reste plus de tête après, là.
Pas ben, ben, non. Mais tu sais, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va jouer avec les boulets de notre balle. Fait que ça va faire que même si c'est un gros calibre, c'est sûr que la force d'impact est énorme, mais souvent, c'est des boulets ben spéciales qui vont faire un petit trou, mais c'est à l'intérieur que ça va faire l'impact.
Okay.
C'est sûr que si tu prends un boulet pas fait pour ça, c'est sûr que tout peut éclater. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on veut pas que ça ait l'air d'un épouvantail, 5 grammes. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'organise souvent pour faire des shots propres. Puis c'est sûr que la force d'impact qui se fait à l'intérieur, c'est dommageable au bout, mais ça fait juste un petit trou, puis ça fait une job propre.
Est-ce que c'est l'arme la plus qui te fait le plus triper avec laquelle tu as tiré? Tu nous as déjà mentionné que ton dada, c'était vraiment l'arc à flèche, mais arme à feu parlant.
Ah là. Oui, la TRG M10 là, dans les carabines, là, c'est le modèle le plus haut que tu peux avoir, puis après ça, tu tombes avec une .50.
OK.
Fait que, tu sais, c'est agréable à tirer. Tu sais, l'arme, de la manière qu'elle a été faite, tu peux faire de la précision, tu peux faire trou en trou, t'as pas de misère. Puis, tu sais, son tir de confort à la TRG, c'est 800 verges.
Que
fait que, c'est habituellement, maintenant, un arme ordinaire, je te dirais, un tir de confort, c'est 250-300 verges.
Est-ce que tu entends par tir de confort pour le commun des mortels qui sont pas...
En fait, c'est, mettons, de la zéroter super bien que tu vas tirer, mettons... À côté un peu, pas trop de technique, tu vas tirer puis tu vas péter la plaque pareil.
Ah,
c'est vraiment
okay,
genre, okay. Tu sais, exemple, on va dire ça comme ça, comme au soccer, ton tir de confort au soccer, à 10 mètres, t'as pas de misère à mettre top corner.
Je comprends. Okay.
Top corner, c'est pas hockey, ça. Je suis tellement bon dans les sports, moi, là. Mais
j'imagine que quand tu pognes le top net au soccer, c'est un top corner aussi.
Un top corner, mais tu sais, c'est le même principe. Fait que au soccer, à 10 mètres, t'es bon. À 50 mètres, ça commence à être loin. À carabine, c'est la même affaire.
OK.
Ouais.
Un gun, de même, à quelle distance, mettons, max, ça peut être létal? Un 2, 3
ben,
kilomètres?
Écoute, j'ai parlé avec des militaires qui ont travaillé avec cette arme-là. Puis, ils ont fait des tirs jusqu'à 1.3, si je me trompe pas, si c'est pas plus.
Ah, quand même.
Mais le record de sniper canadien, c'était autour de 3 km de mémoire.
Ça doit être avec
3.2. Je sais pas si c'est avec 1.50, je pourrais pas te dire. Il va aller voir. Je pourrais pas te dire parce que tu as vu, le calibre que les militaires aussi utilisent beaucoup, c'est 308.
Okay.
T'as la 308, t'as la 338, puis t'as la .50. Mais... Écoute, ils ont des distances. Puis, tu sais, n'importe quel calibre, tu peux faire une long shot pareil. Là, justement, là, c'est là qu'on va décider la force d'impact. C'est sûr que le top qui est en haut, c'est la .50. Quand tu checkes la balistique, la .50 est en haut pas mal.
Mm-hmm.
Mais, tu l'as trouvé?
Ouais, c'est 3,540 mètres.
Oh,
un Canadien qui a shoté un gars de ISIS avec un .50.
En Irak,
je pense. 1.50, c'est ça.
Ouais, exactement.
C'est ça. Okay. Fait que parce que c'est ça, la .50, c'est la seule où est-ce qu'elle a encore une force d'impact à cette distance-là. En fait, la 338, elle va l'avoir, mais tu sais, ça va chatouiller. T'sais, moi, dis ça comme ça.
Tant gars, il va l'attraper, puis il va
ouais, quasiment, tu sais, on peut dire ça comme ça, là. Fait que, mais c'est un beau bijou.
Ouais, vraiment. Tu conseillerais, mettons, parce que là, dans ces eaux-là, je comprends que c'est un... C'est...
Il n'y a plus de micro.
Il a accroché son micro. OK, il est revenu.
Non, on pèse plus fort.
OK. OK.
Ah, là, t'es là.
Ben, ouais, ça m'a bien le micro qui me lâche dans les mains. Ouais. Tu conseillerais quoi? Parce que là, c'est un bébelle qui est particulièrement niché. Ouais. C'est pas le commun des mortels qui peut s'acheter ça. Tu conseillerais quoi comme arme à quelqu'un qui est pas à sa première chasse, mais qui veut triper, qui est prêt à mettre un petit peu?
En fait,
pas être à 25 000 non plus. Là.
En fait, l'arme, tu as la TRG M10 qui est en haut de la liste. On s'entend, c'est la Ferrari de la Ferrari. Sacco a pris la TRG M10 puis ils en ont fait un arme de chasse qui s'appelle la Sacco S20.
OK.
Que tu peux l'avoir avec une crosse précision puis une crosse Hunter. Puis c'est l'arme, c'est vraiment le petit frère de la TRG. Après ça, dans la Sacco, si tu vas aller aussi dans le côté Tika, Tika ont sorti les Tika Ace. Ils sont aussi un style tactical dans le même genre. Mais mettons, le côté vraiment précision chasse, c'est la Sacco, la S20. Là. Tu te trompes pas pantoute avec ça.
Le scope, fais-tu le chasseur?
Non.
Tu comprends-tu ma question?
Oui, je comprends. En fait, non, parce que ça va dépendre de la distance que tu vas... C'est sûr que si tu me dis, écoute, ben moi, je veux faire des shots de 800, 900, 1000 verges, ben là, moi, dis... Là, avec ton petit scope pour faire du 0-20, ça va pas bien marcher. Là. Mais tu sais, après ça, là, ce que tu vas avoir, c'est que c'est sûr que plus que ton scope est hot, plus que, mettons, exemple, ça va être précis, tu vas avoir, mettons, plus de chartes dedans, tu vas avoir un focus différent, tu peux avoir une petite lumière dedans, tu peux avoir tes tourelles. Après ça, ben là, tu as la qualité de la lentille qui va changer. Tu sais, plus que tu upgrades, souvent, plus que ta lentille est bonne, plus que ça va faire que quand la brunante va arriver, ben ça va être beaucoup plus clair dans ton scope. Fait que c'est tout. Quand plus t'avances. Okay. Puis t'as aussi, t'as la grosseur du scope, c'est pour aller chercher le plus possible loin ton zoom, en fait, dessus. Mm-hmm. Fait que oui, souvent plus tu payes cher, souvent plus que t'as la qualité, t'as la solidité. T'sais, t'as tout. C'est comme n'importe quoi.
Moi,
tu payes plus, t'as plus.
Sur mon Airsoft, j'avais un viseur holographique.
Ouais.
Où j'avais, tu sais, de la lumière carrément dedans. Y a-tu des télescopes de chasse qui sont de même aussi?
De chasse, j'ai jamais vu ça.
Non.
Probablement que oui, mais au Canada,
ça doit être pas légal.
Aux États, je n'ai vu, on s'entend.
Okay.
Tu sais, quand j'étais au Shot Show, au Canada, c'est pas ben commun parce que c'est ça, c'est pas commun.
Okay.
c'est vraiment une affaire ben nichée, ben précis. Fait que
vos chums de Beretta font-tu des carabines ou sont juste dans le pistol?
En fait, non, ben la famille Beretta on fait l'acquisition d'un paquet d'entreprises. Mais si on parle, mettons, Sacco qui sont dans les carabines, Tika sont dans les carabines, t'as Beretta qui sont dans les armes de poing. Ils ont aussi un côté militaire, puis sont dans les armes, les 12.
Okay.
Tu sais, tout ce qui est semi-automatique, les armes de prestige. Justement, s'il y en a qui nous entend, probablement que je pense qu'ils nous entendent. Je pense que c'est ça le but de la radio.
Ouais, généralement.
Habituellement, c'est ça. Mais si
très
ça
fou,
vous tente...
même le monde nous écoute en braille en ce moment.
En cas de morse.
Oui, c'est ça.
Mais s'il y en a qui veulent les voir, on en a emporté justement pour montrer chez la Tulipe.
OK,
de,
cool.
De, vraiment du high-end de 1940 aller jusqu'à 2025. On les a toutes.
Ah,
c'est
ouais.
À longue, t'sais, depuis qu'on est pour Beretta.
C'est comme un mini-musée que vous avez emmené, là.
Genre, ouais, exactement. En fait, quand on va aller chez la Tulipe, au fond du la Tulipe, il y a un gros logo Beretta. On va être là avec nos gants blancs en soie parce que c'est des armes vraiment, c'est du high-end. C'est la gamme de luxe de Beretta. Fait que, tu sais, ils font de tout. Ils font aussi pour le petit cul qui va commencer. Puis ils font pour le bonhomme qui décide vraiment de s'acheter un bijou. Ils font tout. Ils sont aussi dans les handguns. Tu sais, on s'entend. Dans les armes semi-automatiques. Ils ont un côté aussi militaire que ça. Le monde n'en parle pas trop parce que c'est beaucoup très, très, très militaire. Tu sais, j'ai vu des affaires que je peux pas dire, en fait, aussi. Mais ils sont dans tout. Ils ont fait l'acquisition aussi de Frankie, qui est une autre compagnie d'armes. L'acquisition de Steiner, qui sont dans les scopes, dans les jumelles. Buriss aussi. Ils ont la compagnie Benelli aussi, qui est une excellente compagnie de 12 aussi et de fusils. Fait que c'est une grosse famille. La famille Beretta, là, c'est toute beauté, les voir aller.
All right. Hey, écoute, on a des questions d'auditeurs pour toi.
Yes.
On va t'en garocher en rafale. Louis, si tu veux commencer avec une première, puis j'enchaînerai avec la suivante.
Absolument. Il y a un auditeur qui veut savoir comment on fait une bonne ligne d'odeur.
Ben, en fait, ta bonne ligne d'odeur, que ce soit chevreuil pour orignal...
Avant, pour les auditeurs...
C'est quoi une ligne d'odeur? Parce que ça sonne très cocaïne en forêt.
En fait, une ligne d'odeur, c'est une place que tu vas, exemple, t'installer à ton mirador. Puis la ligne d'odeur, c'est une place où est-ce que tu vas te mettre à bon vent pour faire une ligne avec des urines pour justement attirer le chevreuil. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est que le meilleur endroit pour faire une ligne d'odeur qu'on prend, c'est où est-ce que tu as ton mirador. Souvent, les lignes de transition, c'est les places où est-ce que les mâles vont souvent prendre ça. Parce qu'une ligne de transition, c'est un mélange de feuillus et de conifères. Fait qu'il va rester entre les deux pour le feuillu, pour avoir de la distance, puis le conifère aussi pour se cacher. Fait qu'il va se promener là-dedans, puis souvent, ce qu'on va faire, c'est toujours à bon vent. Exemple, que tu es dans ton mirador et que tu as le vent d'en face, il faut que tu t'organises pour faire une ligne d'odeur qui va te faire comme un mur avec le vent. Fait que c'est tout le temps de jouer avec ça. Il faut tout le temps que tu calcules que faut pas que tu fasses ta ligne d'odeur en arrière de toi. Mm-hmm. Fait que si tu as le vent d'en face, tu as ton odeur à toi aussi qui va pousser. Mais moi, le secret, c'est les lignes de transition pour une ligne d'odeur, c'est la meilleure place.
Et c'est justement, que ton odeur se mixe, ça peut-tu faire chier à patente puis alerter, en fait, puis faire que... Oh,
oui, ben oui, ben tu sais, en fait, oui, même si on traite nos odeurs, ils en restent tout le temps. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est que, tout dépendant, on va jouer avec les lignes de transition pour essayer que les chevreuils, au lieu qu'ils t'arrivent d'être dans le dos, qu'ils vont t'arriver de la gauche ou bien de la droite, parce que, tu sais, les chevreuils ou bien les orignaux, le nez, c'est leur vie. Mm-hmm. Fait que tu sais, s'il y a une petite odeur, puis c'est une proie à base. Fait que s'il y a une petite odeur qui fait que c'est pas correct, il revient de bord puis il s'en va.
OK. Comment on s'initie à la chasse aux dindons sauvages? Quelqu'un qui part de rien, là, qui t'entend, toi ou ton père, à la radio, qui dit « Hey, moi, là, pour une raison que je m'explique pas, j'ai un attrait pour ça. » Comment est-ce qu'on commence?
Bien, en fait, c'est simple. Première affaire, c'est sûr, c'est de passer son cours de chasse, son cours de maniement d'armes. Puis, je suis pas trop sûr, mais je pense que j'ai vu ça passer cette semaine. Ça a l'air qu'il n'y a plus de cours en ligne pour le cours de dindons. Moi, quand j'étais jeune, fallait passer un cours en ligne sur la chasse aux dindons. Puis ensuite de ça, ben là, c'est sûr que c'est d'équiper ton dos, on s'entend. Mm-hmm. Puis c'est de trouver les places de chasse, prospecter, demander des permissions. Tu sais, c'est vraiment ça. Trouver les champs, trouver où est-ce qu'ils sont. Puis après ça, c'est d'être habillé camo, d'être capable de coller un peu, puis de faire ta propre expérience. Mais tu sais, il n'y a pas. Tu peux te prendre des guides. Il y a beaucoup, beaucoup de guides.
J'allais te demander ça. Ouais, existe-tu des gens, des gars qui ont des business de parrainage, genre deux, trois fois, ils t'expliquent comment ça marche?
Ouais. Ben même, c'est des guides que, mettons, tu vas dire, écoute, je veux chasser le dindon, je veux faire ci, je veux faire ça. Ben tu payes, tu vas avec, puis te guide au dindon, il va coller, il va dire, va-t'en là, fais ça, place-toi là.
OK.
Puis, oui, je pense, il y a une couple de gars au Québec qui font ça.
OK. Louis?
T'as parlé de caler. C'est quoi le meilleur truc pour apprendre à bien caler? Là, on nous dit l'orignal ou le chevreuil, mais le dindon sauvage. Y a-tu des bons trucs? Puis est-ce qu'un call humain va toujours être moins bon qu'un fameux calleux électronique?
Ouais. Apprendre à caler, moi, j'étais sûr que c'était tout le temps un gréement que vous utilisez.
Ouais, ben, tu sais, au dindon, ça s'étoffe. Ouais. Chevreuil, c'est tough. À l'orignal, hey, là, on va parler de sexe. Ça vous tente-tu?
Ah, ouais, vas-y. Tout le temps? Hey, check les gars-là, y a-tu le goût, tu penses?
À l'orignal, le tu sais, chevreuil, dindon, ours, c'est vraiment, tu sais, mettons, canard, c'est tough parce que le son, c'est coin, 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 ou... tu sais, c'est tough. Mais à l'orignal, il y a une technique que je dis à tout le monde, puis tout le monde la retient parce que c'est facile, c'est simple. Quand tu vas, mettons, là, avec ta blonde, OK, là, puis que tu veux faire l'amour, OK, puis qu'elle veut pas, qu'est-ce que tu vas lui dire?
J'ai des cigarettes à t'éteindre dans le dos.
Aussi. Non? Il y a ça. Tu vas dire pourquoi. Fait qu'en fait, le mâle, il va faire pourquoi? Pourquoi? T'enlèves le R.
Ah, oh, OK. Faire
pourquoi? Ta blonde, là, quand tu dis pourquoi, elle va te dire quoi? Elle va te dire non.
Non.
Aussi simple que ça.
Ah, non, mais bon.
Fait que tu sais, puis souvent, les gars, les chasseurs, ils ont peur de dire hey, mon call, il est pas bon. T'en as des gars qui ont une voix de marde. Tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Dans le règne animal, c'est pareil. Fait que tu sais, t'en as un bas qui va faire bouc-boah.
Mais
bouc-boah. Okay. Ça marche pareil. Mais faut juste pas que tu fasses pourquoi. Ouais. On s'entend.
Pourquoi vous venez pas?
C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste de pourquoi. Pourquoi? Puis tu sais, quand tu connais puis quand tu as joué avec les orignaux, ben là, tu changes le P par un
Ah, mais à l'inverse, tu peux-tu les alerter comme hey, il y a un cave qui essaie de nous imiter dans la forêt puis les faire fuir?
Ben en fait, aujourd'hui, il faut se perfectionner un petit peu dans notre call parce que la technique du call a beaucoup évolué. Il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs qui font ça. Fait que veux, veux pas, les animaux s'habituent.
Ah, c'est ça, j'allais te demander. Si la technique a évolué, c'est parce qu'il y a un besoin d'évolution. Ça veut
Exactement.
Dire que les animaux sont...
Et, ben, ils évoluent en même temps. Fait que tu sais, faut que ton corps soit bon, faut que tes techniques soient bonnes, faut que ton vent, toujours checker ton vent, parce que tu sais, si ton call il est moyen... puis que ton vent, il est pas bon, ça marche pas pantoute. Mais tu sais, faut juste se faire confiance. T'sais, c'est sûr que si tu fais pourquoi, 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 on s'entend. Fait que c'est juste de faire, ou bien tu fais, Bref. Fait que c'est juste de jouer avec, de te pratiquer dans la chambre à coucher, si ça te tente avec ta blonde, qu'elle te dise non, pis toi, pourquoi?
Pourquoi?
Mais, c'est juste vraiment de jouer avec, pis c'est de faire ses expériences. Mais, je te dirais, c'est d'écouter, pis dis-toi qu'il échange. Fait que, tu sais, c'est comme si t'étais dans un. Tu sais, meilleur exemple, c'était avec ta blonde. Tu dis pourquoi elle dit non? Tu dis pourquoi elle dit non? Ben, mon ami Chris va l'avoir. Si Chris, on s'entend. Puis, c'est la même affaire. Si maintenant t'es à l'Orignal, puis il y a un autre mâle qui te répond, il va te faire pourquoi t'es là? Pourquoi? Okay. Puis là, tu y réponds.
Tu le fais-tu dans un amplificateur ou vraiment à force de tes poumons?
Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des cornets pour aller chercher plus loin. Puis, quand on voit que l'Orignal, il est attaché pas mal, on va lâcher le cornet. Puis là, nous autres, on court quasiment après pour monter dessus. C'est pour pas y donner le temps de penser. Okay. Nous autres, là, quand il répond que je sais qu'il est là, je check mon vent puis je passe quasiment à course dans le bois. Je cours, mettons, un 20 verges. Puis là, j'écoute. Là, j'attends. Il me répond. Je repars à la course quasiment. Puis là, j'avance. Parce que avoir le cornet, avoir ta carabine. Puis souvent, on a le cornet, la carabine puis ton panache. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je prends mon panache. Puis là, mettons, je cale avec mon cornet. Puis quand il me répond, je lâche mon cornet de suite. Puis là, j'avance dessus. Okay. Fait que c'est pour starter ton... le début. Pour starter ça, tu es fait avec ça. Parce que tu vas aller chercher loin, très, 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 très loin. Pour ceux qui est accroché, ou ceux qui est de même. Là, ben là tu lâches ça. Là, moi, personnellement, moi, c'est ça que je fais.
Quelqu'un qui n'a pas confiance en son pourquoi, tu lui conseilles-tu un outil technologique? Est-ce qu'il se fait quelque chose de potable?
Ben, tu as des cales électroniques aussi aujourd'hui qui sont vraiment...
Fait job?
Ah ouais, il y en a là que ils ont poussé ça très, 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 très loin. Moi, personnellement, je ne tripe pas trop parce que c'est des gogosses de plus. Là. Ouais. Moi, ça, c'est personnellement. Malgré que des fois, on l'utilise souvent quand, exemple, que le secteur il est mort, que le secteur, tu cales, tu marches, si à gauche, à droite, t'entends rien, tu vois rien, on s'installe sur une saline, on pogne le cale, on le met là, puis la femelle, elle se lamente pendant 3 heures de temps. Mmh. Souvent, là, c'est là qu'on va l'utiliser. Mais quand que je marche, souvent, en forêt, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai une belle voix, fait que j'aime beaucoup ma voix.
Ben oui, tu fais bien de l'utiliser.
Admettons, pour les animaux qui se calent moins bien, genre le chevreuil, le canard, le dindon sauvage, c'est-tu mieux les calus qui sont faits, là, que tu fais juste souffler dedans puis qui simulent le son, ou les calus électroniques?
Pour le canard, pour le dindon, t'as pas le droit. Toi, si je me trompe pas, pour le dindon, t'as pas le droit.
Les électroniques, ça, ou des calus tout court?
Non, les électroniques.
Okay.
Pour le chevreuil, il y a ça, t'as le droit. Pour le canard, dindon, puis outarde, oie blanche. C'est pas vrai. À l'oie blanche, t'as le droit, mais... toutes les autres, t'as pas le droit. Puis, tu sais, aussi, t'sais, c'est super le fun. Chevreuil, j'aime beaucoup faire une technique de rackling avec un grunt qui est burp. Tu sais, tu fais du rackling, tu sais, pendant un bout, puis là, burp, 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 burp. Tu sais, c'est toutes des techniques que je pourrais expliquer éventuellement. Ça, c'est très, très, très technique. Pour le canard, ben, tu sais, c'est sûr qu'on a des cales. Tu sais, on a des appos pour faire ça, parce qu'à faire mac, 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 mac. So, ben des fois, mettons, à l'outarde, quand, exemple, qu'on va faire, c'est du comeback call. En fait, c'est tu le call avec un call ordinaire. Quand il vient, souvent, les gars, ils vont tirer. Puis souvent, il va en rester une, qu'on appelle ça une lunar, qui va être tout seul. Puis on va faire boop, boop, juste ça, boop.
OK.
Boop. Là, à un moment donné, boop, elle revient. Fait que c'est des calls quand elle longue, quand tu prends un petit peu d'expérience. Ben que ça marche des fois à la bouche, mais t'as de l'air répété et tout des fois.
Ouais, mais crème, t'es tout seul dans le bois ou t'es avec tes chums?
T'es seul dans le bois, c'est pas grave. Ouais.
C'est quoi ton rapport à... Je suis curieux de savoir à quel point t'es un puriste de la chasse. À quel point c'est... En fait, non, je vais transformer ma question. Y a-t-il une partie de toi que ça fait chier la technologie qui rentre dans la chasse, ou t'aimerais ça que ça reste justement en force des poumons puis avec les stratégies qui sont à ta portée?
Ben, tu sais, en fait, c'est sûr que la journée où est-ce que tu vas me dire non, t'as plus besoin de tirer, il va tirer pour toi. Là, m'a dit non, si tu l'as emmené, crise de moins break.
Ouais.
Mais je te dirais, une des plus belles outils qu'il y a eu, puis une des pires outils qu'il y a eu en même temps, c'est les caméras de surveillance pour les jeunes chasseurs, m'a dit ça.
OK.
Parce
Pourquoi?
Que j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes chasseurs qui viennent m'écrire, disent, hey Yann, sur mes caméras de surveillance, j'ai pas de buck. C'est pas motivant de chasser. Moi, je dis, lâche-les des astifies de caméras.
Mm-hmm.
Il dit pourquoi? J'ai dit, tu peux pas te fier juste à. Oui, ça peut te donner une idée, ça peut te motiver si t'as des bucks. Mais moi, des fois, j'ai des spots que je sais qu'il y a du gros buck. J'ai bien beau mettre une caméra de surveillance. Il n'y a pas de buck, mais je sais qu'il est là.
Okay.
Fait que moi, j'ai dit, lâche ta caméra de surveillance puis chasse. T'as bien plus de chances de récolter dans le bois que d'être assis dans ton salon et juste regarder tes caméras.
À ces gars-là, tu lui dis quoi? Parce que toi, si des caméras pas de shot, toi, quels sont les éléments qui laissent croire qu'il y en a un, Buck?
La main nature.
Les traces de pas.
En fait, s'il y a du chevreuil, il y a un Buck à quatre pattes. Parce que, tu sais, son nez d'une manière, absolument, c'est pour papa et maman, ça, là. Fait que, moi, souvent, c'est ça que je dis. Puis, oublie pas que c'est wise, un chevreuil. Fait qu'il peut passer en arrêt de ta caméra, puis tu le sais pas.
Ah, lui, il sait très bien, okay. Puis il voit
moins. Avec des tests qu'on a fait justement de tout ça, on a fait des traitements aux odeurs pour des caméras. On mettait une caméra en place, on mettait une autre caméra 20 mètres en arrêt pour pogner la caméra, puis le Buck passait en arrière de la caméra.
Ah, c'est fou, ça.
Fait que, tu sais, c'est une maudite belle outil. On s'en tient pas. T'sais, nous autres, on tripe. On est tous rendus avec ça, avec des caméras cellulaires, 5 crèmes, ça rentre sur ton sel, t'es fou comme la merde. Mais des fois, quand tu vois pas de Buck, hein, c'est démotivant, tout. Pis là, depuis, je te dirais, 2 ans, là, je regarde les caméras, je peux voir le nombre de femelles qu'il y a. Puis s'il n'y a pas de Buck, m'en gaulisse. Okay. C'est pareil, parce que c'est un... T'sais, tu sais jamais quand est-ce qu'il va te retomber dans... Il y a plein d'histoires que je pourrais dire comme ça, que le gars t'a installé, puis c'est le Buck d'une vie qui a rentré, puis il l'avait jamais vu sur ses caméras. S'il s'était fié juste aux caméras, ben il l'aurait pas récolté.
Tu serais resté à la maison, tu serais resté écouter du Netflix. Question qui t'est adressée par rapport là, à la pêche. On est moins d'un temps de ça, mais c'est pas
bien,
grave. Là,
ça s'en vient, oui.
Tu nous as parlé souvent des phéromones. Est-ce qu'il existe des phéromones pour poissons?
Ben oui. En fait, c'est des phéromones de stress.
Okay.
C'est plus le côté, mettons, chasse, ça va être côté vraiment très sexuel. Il va y avoir le mâle, la femelle, les grattages, t'sais, toutes ces affaires-là. Quand on tombe dans le poisson, en fait, c'est une phéromone de stress. Fait que quand un poisson va être blessé, ben il va émettre... C'est le même principe que quand tu vois quelqu'un, tu dis, il me semble que t'es stressant, toi. C'est le même principe.
Okay.
Fait que quand un poisson va être blessé, c'est des phéromones de stress qui va mettre dans l'eau. Puis on a réussi justement à les reproduire pour ça.
Mais ça les effraie pas, les autres poissons, de sentir un phéromone de stress?
Ben non, parce qu'un poisson, ça se mange entre eux autres.
Ah, OK. Fait
que aussitôt qu'il sent une affaire de stress, parce qu'il y a quelque chose qui est blessé. Okay. Moi, j'ai faim, je mange. Fait que ça, ça se mange entre eux autres. Fait que...
OK. Louis, ouais. Qu'as-tu?
Ben, tant qu'à être dans le poisson, quel autre poisson que la truite et l'achigan est facile et surtout bon à manger au Québec?
Ah, la perche chaude. La perche
chaude. C'est bon, la perche chaude?
Ben oui. Qu'est-ce que tu m'as nommé?
La truite puis la chigan.
Ah, c'est un crème. Perche chaude, dorée, brochée. Moi, le best barbotte. Le best
barbotte. Manger de la barbotte.
Ah oui, c'est bon. Ah, hein? Mon dit que c'est bon. De la petite barbotte. Pas de la pas des gros barbus, là. De la barbotte, là. De la babotte, là.
Ouais, ouais. La babotte.
La babotte.
C'est dans quel? C'est dans Elvis.
Ça, c'est dans Elvis Gratton. Babotte,
t'as la babotte, t'as
Mais la barbotte, c'est super bon. De la perche chaude, c'est excellent. Moi, personnellement, je te dirais, au top de ma liste, j'ai la perche chaude, le doré, puis la barbotte. La truite, je l'ai même trop mangé. Ah.
La viande sauvage que tu préfères?
Chevreuil.
Ouais?
Chevreuil 100 000 à l'heure.
Après, t'es comment?
Moi, j'étais un gars de bois. Moi, directement dans la poêle, épices de Montréal.
OK.
Ou, tu sais, des affaires de même. Mais, cassé. Quand je fais vraiment cowboy, là, je vais la mélanger, mettons, ici, avec épices Appalaches. De Barbecue Québec,
ouais, okay.
qu'on travaille avec eux autres. Souvent, je vais faire des mix comme ça, mais je te dirais, dans l'orignal, mettons, tu me donnes un bon steak d'orignal, les épices à Appalaches, on les a développées avec mon père pour l'orignal.
Ah, oh, c'est vraiment...
C'est, puis, demande-moi pas de mettre une sauce, quelque chose de même. Non!
Ah, je suis pareil comme
mes
toi.
Mes épices Appalaches, mon steak d'orignal, puis let's go, bon.
J'avais déjà fait fumer un roast beef d'orignal avec ces épices-là.
C'est pas pire.
Parce que c'est lean, faut pas que tu le fasses fumer longtemps. Là. C'est un roast beef. C'est ça. À 135, puis après ça, tu sors ça de là. Ben,
c'est viande sauvage, j'ai pas beaucoup de gras. Fait que des longues, tu sais, de faire fumer ça pendant des 6-12 heures, on oublie le projet, là.
Je pourrais pas te dire, je suis pas encore assez hot là-dedans.
Okay.
Je suis pas encore assez. Ben écoute, ben, si ça vous tente d'en savoir plus là-dessus, Max de Barbecue Québec, il est au salon.
Ah ouais?
Puis c'est un chum à nous autres. Puis on travaille avec justement, c'est Max Lavoie de Barbecue Québec.
Ah oui, et puis lui,
c'est
par
une
télé,
machine, Max.
Ah oui, mais ça.
Une machine solide, justement. Je suis supposé d'aller le voir. Fait que si vous avez des questions barbecue, c'est le gars.
Ouais, ben écoute, je m'essaye avec toi, là, mais des ribs d'orignal.
Ouais.
Oui.
Tout ça mange un orignal.
C'est-tu pas payé, des ribs?
Très, très bon. Très, très, très,
ah,
très
ouais?
Bon. Ah, ouais, du bout du sabot au bout du nez. J'ai beaucoup de gars qui mangent la langue. Moi, je l'ai jamais fait.
Ah, ça, c'est dégueulasse.
Mais ouais, il y a des gars, là, moi, je l'ai jamais fait. Mais tu sais, moi, ce qui est un incontournable dans l'orignal, on s'entend, moi, c'est le cœur puis le foie. Ça, c'est un classique. Quand on va récolter l'orignal, c'est
direct ce que tu manges.
C'est direct. On va le récolter, on va le sortir, on va l'éviscérer. On va le pendre tout. Puis le soir, c'est notre foie d'orignal, notre cœur d'orignal au curry, avec des petites patates, du bacon, puis une fois de temps en temps, une petite salade quand on fait le cowboy.
dans les questions de nos auditeurs, on va sortir de la pêche un peu. Il y a un coyote qui rôde dans le bois derrière chez notre auditeur. Il se demande s'il y a un danger pour son barbette.
Son barbette.
Son chien.
Oui.
Possiblement barbette de petite taille. Ah,
c'est bien rare, c'est un gros rottweiler qui s'appelle barbette quand il pense. C'est ça. Mais oui, qui se méfie très, très, très.
Qu'est-ce qu'il peut faire pour régler ça?
Qu'est-ce qu'on fait pour le faire, genre, décrisser? Mettons qu'on n'a pas de gun à 25 000, nous autres.
Tu mets du poivre de Cayenne, des clous de girafe.
Je te dirais...
gris-gris.
Mettons, un coyote. Habituellement, mettons, pour les moufettes, on prend de l'urine de coyote, mais pas de l'urine de coyote. T'sais, là, tu vas l'attirer. Mais tu sais, je te dirais...
12.
Ben, tu sais, si tu peux, oui. Tu sais, si tu peux, oui. Mais tu sais, sinon, c'est mettre, mettons, des épouvantails ou ben des affaires comme ça qui va faire justement qu'il va avoir peur, qu'il va le retirer.
Ouais, ça marche, ça, une genre de forme humanoïde, là.
Les formes humaines, là, le gibier ne tripe pas. C'est le même principe. Tu sais, les fameux Inukchuk.
Ouais, les statues de pierre, là.
Ils servaient de ça, justement, dans le temps pour dévier les troupeaux de caribous.
Ah, ouais.
Ça ressemblait à une silhouette humaine. Puis, tu sais, le caribou, ça ne voit pas super bien. Fait que quand il marchait souvent, ben, il servait de. J'ai entendu des histoires. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est logique quand tu y penses. Il servait de ça justement pour aligner les troupeaux de caribou. Fait que, tu sais, un épouvantail qui va virer au vent, une lumière qui va allumer si, mettons, un coyote passe, mais. Un coyote, c'est un rousse. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part de le trapper ou ben de le chasser, si tu peux. Mais sinon, ben tough. Ben tough.
Question qui est originale, je trouve, mais en même temps, ça fait cowboy avec une caméra de recul, fait qu'on est moins dans, le cowboy, là. Mais est-ce que la chasse avec un véhicule électrique, ce serait pertinent, étant donné que ça fait moins de bruit et que ça effraierait moins les animaux?
On a des vélos électriques.
Ah, ouais?
On est rendu avec ça.
T'es-tu sérieux?
Ben oui, c'est une merveille.
Hey, non, en fait, mais j'imagine mal ton père, c'est un vélo électrique.
Mon père, là, il va plus à la chasse s'il n'y a pas ça.
Ah, ouais?
Ah, ben oui, parce que tu peux couvrir des grosses distances.
C'est clair, ben oui.
T'es silencieux au bout. Si tu manques de batterie, tu reviens à pied, là. Mais, tu sais, tous nos chums à l'Orient, on est-tu rendu avec ça? Aux États-Unis, on chasse avec ça. Tu sais, parce que ça te permet de voyager très, très loin, de pas déranger ton territoire. Ça laisse pas d'odeur. Fait que, tu sais, c'est une merveille. Les vélos électriques, je vous le dis, là, c'est ça à coche. Il y a des vélos électriques, ils ont des motocross électriques. On reste avec les vélos électriques parce qu'au moins, si tu manques de batterie, ben, tu peux pédaler un peu. Fait que t'es pas obligé de revenir à pied. Mais, on est tous rendus avec ça. C'est un incontournable.
Hey, le pigeon d'argile, avant qu'on te laisse aller, oui. le pigeon d'argile... Comment est-ce qu'on se lance là-dedans? Puis en gros, la discipline consiste à quoi? Hein?
Le plaisir de tirer, être en gang, puis tout ça. Puis si tu veux commencer, si tu veux pas investir ou quoi que ce soit, tu as des clubs de tir au Québec qui se spécialisent là-dedans.
Ça te prends-tu ton permis de port d'armes pour faire ça?
Non, du tout. Tu te présentes...
Dans un club, à
Québec, je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'à dans mon coin, c'est le Montreal Ski Club. Qui sont réputés là-dedans, justement, vu qu'ils sont proches de Montréal. Désolé de parler de Montréal, mais vu qu'ils sont proches de Montréal, ben, ils sont beaucoup spécialisés là-dedans. Mais tu as des clubs de tir, je les connais pas tous, mais tu as beaucoup de clubs de tir au Québec juste à s'informer. Puis on déplace justement que tu n'es pas obligé d'avoir de permis, tu n'es pas obligé d'avoir de formation, rien. Ils vont t'assister là-dedans, ils vont te faire des cours, ils vont te montrer comment. Puis c'est addictif.
Tu dirais-tu que c'est plus dur que ça en a l'air ou plus facile que ça en a l'air?
C'est plus facile. Ah, quand tu comprends le principe puis tout, que tu prends du temps, tu prends le temps. Habituellement, là, mettons, là, quelqu'un qui n'a jamais tiré avec nous autres en dedans de 20 minutes, qui est capable de casser les assiettes.
Ah ouais, c'est pas là.
Ouais. Il y en a qui l'ont pas, mais on s'organise pour qu'ils l'aillent.
C'est comme tout, hein? Ouais, c'est ça.
C'est comme tout, c'est à peu près ça.
C'est pogné à twist.
Ah ouais.
Hey, Yann, un gros merci, man, de t'arrêter en studio, nous jaser ça.
Un gros merci à vous autres de me savoir.
Chacune de nos jasettes, moi, je suis fasciné de te jaser. Parce que ça, je dis à chaque fois à Louis avant qu'on jase, c'est tellement pas mon univers, mais j'aime tellement ça, là. je suis fasciné des trucs que tu as. Puis, sérieux, c'est. Puis, la dernière fois, ton père a frappé en relève, là, parce que t'avais une.
Ouais, je t'ai pogné dans le bout.
Ouais, c'est ça. Puis, on a parlé de cet aspect-là que, tu sais, la passion de la chasse est née chez ton grand-père, puis ça s'est passé de génération. Puis, je trouve ça malade. Je trouve ça de toute beauté.
Écoute, puis, tu sais, on n'est pas juste dans la chasse. Là, depuis 2 ans, j'ai développé une passion pour le chevreuil.
Okay.
J'ai du fun à les observer, à apprendre sur eux autres. Je suis en train de développer une passion pour les armes solides. C'est quand je suis allé justement à Las Vegas. Je prends le temps de profiter de tout ça. J'ai une passion pour les arcs, justement, d'aller chercher le côté pointilleux, le côté de luxe aussi avec les armes Beretta, avec le côté prestige. J'ai cette chance-là beaucoup de travailler justement avec avec la plus grosse compagnie d'armes au monde, qui est Beretta. Fait que c'est de prendre le temps de comprendre comment que c'est fait, la qualité du bois. Ou bien, tu regardes un chevreuil, pourquoi il se lève la patte, pourquoi il se lève les oreilles, pourquoi il regarde là. Fait que on a une passion pour la chasse, mais j'ai aussi une grande passion pour les animaux, sur apprendre tout alentour. C'est une drogue.
Un maître connaît tout de son métier, là.
C'est à peu près ça. On est bon dans tout, mais on est excellent dans rien, nous autres.
Avant de te laisser partir, là, tu m'as allumé sur quelque chose. En tant que spécialiste du chevreuil, puis que tu regardes leur comportement, moi, j'ai une question qui me gruge avec les chevreuils, OK? Veux-tu bien m'expliquer pourquoi, quand je vais à chasse, puis que 3 mois d'avance, je mets mon linge dans des bacs de cèdre, avec des branches de sapin, de la place où je vais, que je me lave avec du savon anti-odeur, que je prends 2 heures pour me rendre à ma cage pour être sûr de pas craquer une petite branche, que je m'assis puis que je fais attention, pas craquer rien en respirant, pas bouger de la journée, à rien faire, à écouter de tout. Il vient pas un maudit chevreuil. Mais! Quand je roule dans le parc des Laurentides à 120 km/h, les lumières rôdent puis le gaz au fond, il se crie en avant de moi!
Ah, c'est le chevreuil. Écoute, il y a pas grand-chose à comprendre. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est ton attitude. Le fait de trop vouloir récolter ou de trop voir fait que le chevreuil le ressent. Il y a un 12e sens à 4 pattes qui fait que si tu veux trop, si t'es trop négatif, la journée où est-ce que tu vas t'en sacrer, c'est là que tu vas commencer à avoir du fun. C'est exactement ça. Puis, tu sais,
c'est comme trouver l'amour, sérieux. Tu viens de.
Arrête. Ben, écoute, je suis là-dedans, moi, là. Ah ouais. J'essaie de la trouver, là. Ben,
tu me l'as dit, man. Phéromone.
Aussi, là. Mais c'est la même affaire qu'un gars qui est célibataire. Arrête de chercher, puis à un moment donné, tu vas le trouver. Pour le chevreuil, c'est la même maudite affaire. Fait que, tu sais, j'ai chassé avec des gars qui voulaient tellement récolter que les gars voyaient rien. Tu chasses avec des gars
qui fument une clope
dans la cache, qui veulent juste profiter, puis les gars vont tirer un record, Stifi. Ben, t'as le gars qui est full négatif. Ah, moi, je vois rien. Moi, les bucks sont trop petits. Tu sais, juste des petits bucks. Ben oui, c'est sûr. Tu parles juste de ça. Tu vas tuer petit. Juste profiter. Juste apprécier le moment, ça va être x 1000.
Un petit, tu peux pas tirer ça? Bébé, genre?
Non.
C'est la question cruelle de l'émission.
Non, tu peux pas. Non, il y a un petit côté qu'il faut garder très éthique, mais non, on peut pas. Il y a des places aux États-Unis où est-ce que tu peux.
OK.
Parce qu'ils ont trop de chevreuils. Fait que t'as des places où est-ce que justement, où est-ce que tu vas faire du doe management, qui est justement de récolter beaucoup de femelles et beaucoup de veaux. Que c'est fait dans les règles de l'art puis tout, mais au Québec, on peut pas.
OK. Hey, là, on te laisse aller pour vrai. Et surtout, on invite les gens à aller te saluer lors de ce 5 à 7 qui aura lieu demain au Salon La Tulipe, directement à Maison-Mère.
Directement à Québec.
Yes. Un gros merci, Yann. C'est toujours un plaisir.
Merci à vous autres, les boys.
Merci, Yann, pour chacune des apparitions que tu fais dans le show. Là, c'est vraiment, vraiment apprécié.
Yes, sir.
On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.